Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Christina Silvero au micro. Cette semaine dans Escale, nous revenons sur le plaidoyer pour un monde sans essais nucléaires de l'artiste peintre et ambassadeur honoraire de The Atom Project, Karibek Kouyoukov, et de Lassina Zerbo, secrétaire exécutif du comité préparatoire pour le TICEN, le traité d'interdiction complète des essais nucléaires. Deux témoignages recueillis lors de leur passage au siège de l'ONU à New York. Bonne écoute.
Mesdames et messieurs, aujourd'hui, ensemble, nous écrivons l'histoire. C'est la première fois que l'Assemblée générale tient une réunion de haut niveau sur le désarmement nucléaire.
Cette année, du 28 août au 28 septembre, le siège des Nations Unies à New York a accueilli une série d'événements pour promouvoir le désarmement nucléaire. Des efforts diplomatiques, historiques, tels que la première réunion de haut niveau de l'Assemblée générale sur le désarmement nucléaire et la reprise des pourparlers sur le dossier nucléaire iranien concernant le traité de non-prolifération, mais aussi des efforts en faveur d'un des instruments clés pour le désarmement nucléaire, le TICEN, le traité d'interdiction complète des essais nucléaires. À cet effet, dès le 29 août, journée internationale contre les essais nucléaires, une exposition a été organisée à l'ONU sous l'égide du Kazakhstan.
Le Kazakhstan a interdit toutes les armes nucléaires et les infrastructures d'essai à son indépendance. Nous connaissons trop bien les souffrances humaines causées par l'irresponsabilité nucléaire.
Le Kazakhstan est l'un des pays phares dans la lutte contre les essais nucléaires et pour cause, son site du polygone nucléaire de Semipalatinsk a connu près de 500 explosions d'une puissance totale 2500 fois supérieure à celle de la bombe d'Hiroshima et une radiation 100 fois plus grande que celle de Tchernobyl. Résultat, de graves problèmes de santé pour plus de 1,5 million de Kazakhs, soit un habitant sur 10.
If you are an environmentalist, this is your cause.
Aussi, l'exposition inaugurée le 29 août à l'ONU par le Kazakhstan à l'occasion de la journée contre les essais nucléaires a permis de mettre en avant The Atom Project, initiative lancée en 2012 par le président Nursultan Nazarbayev afin de sensibiliser la communauté internationale aux effets des essais nucléaires et de susciter leur adhésion à la campagne contre ces essais.
Sign the petition today at theatomproject.org.
Je suis né en 1968 à 100 km de ce qui est maintenant l'ancien site d'essais nucléaires de Semipalatinsk. Mes parents étaient des témoins vivants des essais nucléaires et pendant 40 ans, ils ont vu ce qui se passait sur ce site. Mais je tiens à vous dire que mon histoire n'est pas unique. Dans mon village et dans les villages alentours, beaucoup d'enfants sont nés avec des malformations similaires à la mienne et ils ont souffert et continuent de souffrir aujourd'hui.
Karibek Kouyoukov est un survivant de deuxième génération des essais nucléaires de Semipalatinsk et ambassadeur honoraire de The Atom Project. Karibek est artiste peintre, il est né sans bras et peint en tenant le pinceau avec sa bouche ou ses pieds. Une grande partie de son œuvre est consacrée au paysage du polygone, mais aussi à ses habitants.
Nous, les Kazakhs, nous ne sommes pas les seuls à souffrir. Mais ces tests nucléaires ont touché et touchent encore des familles partout dans le monde. Les gens continuent d'en subir les conséquences. Les parents, les mères, continuent d'avoir honte quand un de leurs enfants naît avec ces malformations. Et je voulais montrer à certaines de ces personnes que les gens de notre région étaient des gens comme vous et moi. Et je voulais peindre des portraits afin que vous puissiez voir leur visage. Si vous regardez dans leurs yeux, je pense que vous pouvez voir dans leur regard que leur âme pleure. Et en effet, c'est ma mission de montrer la souffrance de ces âmes, afin que les gens soient bouleversés et qu'ils comprennent que cela ne devrait pas continuer.
Selon The Atom Project, à la suite des essais nucléaires à travers notre planète, 95 000 fœtus et nouveau-nés seraient morts. Entre 2 et 6 millions de personnes ont été victimes de cancer. 18 à 22 000 personnes souffrent de malformations congénitales sévères, alors que 7 millions sont atteintes de légères malformations et près de 9 millions d'enfants subiraient des séquelles génétiques.
Je veux être en fait la dernière victime de l'utilisation des armes nucléaires ou des tests nucléaires dans le monde. C'est la façon dont je vois ma mission. Et même si je n'ai pas de bras pour serrer vos mains, je veux partager mon cœur avec vous et demander de tout mon cœur de soutenir cette mission, de soutenir notre appel en faveur de l'interdiction complète des essais d'armes nucléaires.
Au-delà des campagnes internationales, pour lutter contre la course aux armes atomiques et plus précisément contre les essais, la communauté internationale s'est dotée en 1996 du TICEN, le traité d'interdiction complète des essais nucléaires. Depuis, les essais nucléaires ont fortement diminué, mais il manque toujours la ratification essentielle de 8 pays pour que le traité entre en vigueur. C'est la mission que s'est fixée Lassina Zerbo, le nouveau secrétaire exécutif du comité préparatoire pour le TICEN. À cet effet, une conférence de niveau ministériel a été organisée à l'ONU le 27 septembre. L'occasion de rencontrer Lassina Zerbo.
En fait, l'important d'interdire totalement tout essai nucléaire dans tous les environnements, je vais dire sous la terre, sous les océans et dans l'atmosphère, au-delà du fait que les essais nucléaires contribuent à développer des armes de destruction massive, il faut aussi compter sur les problèmes environnementaux. Donc, il y a ces deux événements qu'il faut prendre en compte. D'abord, s'assurer que nous ne permettons pas à beaucoup plus d'États de se mettre en position de développer l'arme nucléaire, donc notre rôle d'arrêter la prolifération des armes de destruction massive, et puis aussi s'assurer que ces essais ne contribuent pas à détruire l'environnement et donc, par-delà, contribuer à la paix et à la sécurité mondiale.
Est-ce qu'on a un ordre d'idées, justement, des séquelles, des conséquences, par exemple, sur certains milieux écologiques ou sur certaines communautés ?
Si vous prenez le cas du Kazakhstan, je crois que c'est un des cas dont on parle beaucoup. Il y a eu des essais nucléaires dans la zone pendant des années, et il y a une vingtaine, une trentaine d'années, et beaucoup plus. Et pour ceux qui ont visité Semipalatinsk et ses environnements, vous voyez bien que non seulement il y a eu une atteinte à l'environnement, une atteinte à la faune, une atteinte aux populations aussi, parce qu'il y a eu des séquelles. Et jusqu'aujourd'hui, nous parlons des séquelles qui suivent même des naissances qui sont beaucoup plus postérieures à la période des essais nucléaires. Donc les essais nucléaires, à cause de la radioactivité qu'ils émettent, donc contribuent à beaucoup d'effets nocifs qui ne sont pas totalement contrôlés ou contrôlables en ce moment. Le traité d'interdiction complète des essais nucléaires donne le cadre légal, disons, et officiel à une interdiction totale dans tous les environnements. Et donc, pour éviter le développement des armes de destruction massive et aussi pour pallier aux effets nocifs environnementaux. Donc, cette organisation et la commission préparatoire est chargée de mettre en place le cadre politique et le cadre technique nécessaire pour vérifier, pour prouver que ce traité est vérifiable. Prouver que le traité est vérifiable, c'est prouver que nous dotons tous les États membres des éléments techniques et politiques nécessaires pour leur permettre de vérifier que tout essai nucléaire ne peut se faire sans être détecté. Donc voilà en fait le rôle de la commission préparatoire de l'organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires. Donc nous préparons le cadre politique et technique pour l'implémentation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires.
Et ce traité, il engage donc les États à s'assurer qu'il n'y ait aucun essai sur son territoire ?
Pas seulement sur son territoire, qu'il n'y ait aucun essai partout dans le monde et qu'il n'encourage aucun État à procéder à des essais nucléaires. C'est pour ça que nous parlons d'interdiction complète des essais nucléaires, aussi bien dans l'atmosphère, sous terre et dans les océans.
Alors où en sommes-nous aujourd'hui par rapport à l'entrée en vigueur de ce traité, à ses signataires et combien de pays l'ont en fait ratifié ?
Je crois que nous pouvons considérer que le traité est plus universel que jamais. Nous avons beaucoup plus de 90% du monde qui dit non aujourd'hui aux essais nucléaires, du monde qui dit qu'il faut tout arrêter, du monde qui dit que les essais nucléaires sont nocifs, du monde qui dit que nous ne voulons pas de prolifération d'armes de destruction massive. Donc il est temps que cela devienne une norme internationale. Et pour que ça devienne une norme internationale, notre traité a cette particularité que 44 pays doivent l'avoir ratifié avant son entrée en vigueur. Et parmi ces 44 pays, il y a 8 restants. Et nous travaillons jour et nuit à encourager ces 8 pays par la conférence dont vous avez parlé tantôt, l'article 14, pour les encourager à ratifier ce traité afin que nous arrivions à notre objectif certain qui est l'entrée en vigueur immédiate ou rapide de ce traité d'interdiction complète des essais nucléaires. Nous avons 183 pays qui l'ont signé et 159 qui l'ont ratifié. Le traité est plus ou moins universel.
Qui sont ces 8 pays ?
Les 8 pays sont les États-Unis, la Chine, l'Iran, le Pakistan, l'Inde, l'Égypte, Israël, la Corée du Nord, voilà, ça fait 8.
Justement, pour tenter de les inciter à ratifier et à permettre que ce traité puisse entrer en vigueur, un événement de niveau ministériel au siège de l'ONU le 27 septembre. Alors, en quoi consiste cet événement ? Comment est-ce qu'on peut justement inciter un pays à adhérer, à ratifier, à aller de l'avant pour que ce traité puisse entrer en vigueur ?
En fait, cet événement est ce que nous appelons la conférence de l'article 14. C'est un événement d'abord qui amène tous les États à adopter une déclaration finale dans laquelle ils rappellent aux États restants, aux 8 pays restants, la norme que nous avons créée en ayant plus de 90% de la communauté internationale qui disent non aux essais nucléaires. La norme que nous avons créée en construisant un système de vérification et un système de surveillance internationale qui donne aux États la capacité à vérifier qu'aucun test ne peut se faire sans être détecté. Et donc, cette conférence, justement, sert à rappeler tous ces éléments-là aux États et à les encourager à ratifier ce traité pour que nous allions vers son entrée en vigueur. Mais au-delà de ça, le secrétariat travaille régulièrement avec des staffs dédiés qui ont mis en place ce système de dissuasion, qui est notre système de surveillance, qui fait en sorte que, justement, depuis une dizaine d'années, on a connu que la Corée du Nord qui a annoncé ses 3 essais nucléaires. Mais 3 essais, mais 3 un peu trop, parce qu'on aurait aimé ne avoir aucun. Mais si depuis la signature de ce traité, nous sommes passés de centaines d'essais par an à très peu d'essais en 10 ans, 3 seulement, ça veut dire que justement le traité et l'organisation et sa commission préparatoire constituent une norme déjà à laquelle la communauté internationale adhère. Nous attendons ces 8 ratifications et nous travaillons dur et nous avons espoir et que ça se fera dans un avenir très prochain.
Donc ces mécanismes de surveillance ont en fait servi de mécanisme de dissuasion pour quelconque essai nucléaire, sauf la Corée du Nord. Mais comment est-ce qu'on va pousser justement ce dernier élan pour ces 8 derniers pays ? Qu'est-ce qui va les amener à changer la donne ?
D'abord, laissez-moi ajouter effectivement que ce système est un système dissuasif qui a été construit. Maintenant, est-ce que le moment est juste et bon de pousser ces éléments ? Je crois que oui. Si on a plus de 90% qui adhèrent à un traité et 90% qui disent non, on a une conférence qui se passe régulièrement pour encourager les pays. Moi, personnellement, dans mon mandat que je commence, j'ai initié ce qu'on appelle un groupe de personnes éminentes, un groupe auquel nous avons connu une adhésion massive d'anciens premiers ministres, d'anciens ministres des Affaires étrangères, de ministres de la Défense, de pays.
Parmi ces 8 pays ?
Justement, de pays parmi ces 8 pays. C'est ça qui est intéressant. Nous avons par exemple la Chine qui nous donne l'ancien sous-secrétaire général des Nations Unies pour le désarmement qui a négocié le traité, qui se joint à nous pour s'engager dans ce processus de motivation et pour que ces 8 pays nous montrent le leadership qui est le leur pour l'entrée en vigueur immédiate de ce traité. Et nous avons espoir que la situation géopolitique internationale travaillera en faveur de la motivation que nous créons.
Je pense qu'il est temps de construire un monde sans larmes, sans peur et sans que les mères aient à craindre de mettre au monde des enfants de peur qu'ils naissent avec des malformations.
Et c'est avec le plaidoyer de Karibek Kouyoukov et les efforts de mobilisation de la Sina Zerbo pour un monde sans essais nucléaires que se referme cette édition d'Escale. Escale, le magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies, présenté cette semaine par Christina Silvero avec la collaboration de Florence Westergaard et Carlos Macias. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence.